Chapitre 11. Pendant que Zvit travaillait le rôle de Chimène à Saint-Firmin, on l'attendait au théâtre pour répéter. Avertissez donc Mademoiselle Duchâtelier. Mais nulle part on n'avait trouvé Mademoiselle Duchâtelier, ce qui avait paru surprenant parce qu'elle était l'exactitude même. Alors une comédienne qui jouait dans Ella et qui était sortie la veille en même temps que Zvit avait raconté que celle-ci, bousculant ceux qui la retenaient, s'était précipitée dans un fiacre qui était parti grand train. Un fiacre, grand train, pour aller rue de Vaugirard, à deux pas? Elle est en balade. Cette idée avait fait rire tout le monde, Dandelot excepté. « Je vous ai toujours dit que c'était une grue. Nous a-t-elle assez scié en faisant sa tête ?»« Une fille qui a tant besoin de répétition, » avait dit le régisseur. « Allons, commençons sans elle. Je donnerai les répliques pour Chimène. » Et en bredouillant à mi-voix, il commença. « Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père ?» Cependant, Dandelot, qui faisait don Sanche et qui avait du temps devant lui avant d'entrer en scène, voulut savoir au juste ce que Zvit était devenu et, quittant le théâtre, il courut à l'hôtel des Médicis. Crozat et Madame Crozat, qui venaient de déjeuner, entraient dans leur bureau. Ce fut à eux que Dandelot s'adressa. « Est-ce que Mademoiselle Duchâtelier est malade ?» demanda-t-il. « Pas que je sache, » répondit Crozat. « On l'attend au théâtre pour répéter. » À ce moment, Gaston entra dans le vestibule et, voyant M. et Mme Crozat occupés, il attendit pour leur parler, se tenant à une certaine distance, mais pas assez loin cependant pour ne pas entendre ce qui se disait. « Est-ce qu'elle n'est pas rentrée ce matin ?» demanda Dandelot. « Hier soir, après la représentation, je l'ai vue partir en fiacre au galop. » Crozat regarda sa femme et Mme Crozat regarda son mari, mais comme elle avait la répartie plus alerte que lui, ce fut elle qui, la première, trouva une réponse. « Elle est partie à Rozoy voir sa mère qui est malade, et sans doute elle aura manqué le train pour revenir. »« Ah, sa mère est malade ?» Et Dandelot s'en alla en se disant que c'était là une frime. « Malade, est-ce qu'on est malade ? Elle était d'accord avec Zvit, la vieille Doxy, voilà tout. » Aussitôt que Dandelot lui avait cédé la place, Gaston s'était approché. « Sans écouter, dit-il, j'ai entendu votre réponse. Est-ce que Madame Duchâtelier est sérieusement malade ?»« Sérieusement ? Mon Dieu, non. Assez cependant pour que Zvit ait voulu l'aller voir. » »« Alors, elle n'a pas dit quand elle rentrerait ?»« Non, elle ne savait pas, vous comprenez ? C'est bien naturel. Ce retour dépendait de bien des choses. » Gaston remercia et s'en alla. Pourquoi diable as-tu inventé cette histoire de maladie ? Demanda Crozat, stupéfait de l'ingéniosité de sa femme et de son assurance. Il fallait dire quelque chose. Si Monsieur Chamontin n'avait pas écouté, j'aurais envoyé ce Dandelot promener. Mais il fallait rassurer Monsieur Chamontin. Et quand Zvit rentrera ? Je la préviendrai. Cependant, l'histoire de Madame Crozat, si ingénieuse qu'elle fût, n'avait pas du tout rassuré Gaston. Il y avait du louche dans cette histoire. Pourquoi Madame Crozat avait-elle regardé son mari avant de répondre ? Pourquoi celui-ci avait-il regardé sa femme ? Que venait faire ce fiacre qui partait au galop ? Le comédien avait parlé de cela d'un ton bizarre. Ce n'était pas la première fois que la jalousie mordait Gaston au cœur, car on n'est pas amoureux d'une comédienne sans être jaloux. Mais jamais, jusqu'à ce moment, cette jalousie ne s'était appliquée à un fait précis, comme ce départ étrange, cette maladie plus étrange encore, et cette absence inexplicable. Était-elle partie réellement pour aller voir sa mère malade ? C'était devant le Luxembourg qu'il agitait cette question. Il courut à l'Odéon, et sous les galeries, il acheta un indicateur des chemins de fer. Il savait que la troupe du Châtelier était en ce moment à Rozoy-en-Brie et dans les villages environnants où elle donnait des représentations. Pour être fixé, il n'avait qu'à aller à Rozoy. Il verrait si Zvit était vraiment auprès de sa mère. À 5 heures, il arrivait à Rozoy et, de loin, il apercevait dans un coin de la place les deux roulottes qu'il connaissait si bien. Sous la véranda de la première, une femme était assise. En approchant, il reconnut Madame du Châtelier qui, n'ayant nullement l'air d'une malade, travaillait tranquillement. Son cœur se serra. Bien que ce fût le doute qui l'eût amené à Rozoy, il ne croyait pas à son doute. Combien de fois, en route, s'était-il reproché d'être parti? C'était une injure que Zit ne méritait assurément pas qu'on lui fît. Il avait été fou, et voilà que le fou était celui qui n'avait pas voulu croire. Il s'en alla sur la place pour s'approcher des roulottes. Et il n'avait pas fait 10 pas qu'il aperçut du Châtelier venant vers lui de façon à le croiser. « Monsieur Chamontin, à Rozoy ?» Gaston expliqua qu'il était venu pour la location d'une chasse. Puis, tournant court, il demanda presque en tremblant des nouvelles de Madame du Châtelier. « Mais elle va bien, très bien, je vous remercie. Et ma fille, y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vue ?» Gaston, anéanti, répondit en balbutiant quelques mots incohérents. « J'espère que nous aurons l'honneur de votre présence ce soir. » « Je repars pour Paris. Ah, contre-temps funeste, vous ne me verrez pas dans 30 ans, et, vous savez, c'est la dernière fois que je joue. Ma fille vous a sans doute dit que j'abandonnais le théâtre ?»« Non. Mon Dieu, oui, il me faut renoncer à porter le drapeau du grand art que j'avais tenu jusqu'à ce jour d'une main ferme, je puis le dire, sans me vanter. Mais les temps sont durs, on ne trouve plus de comédiens. Depuis le départ de ma fille, nous étions désemparés. » Je fais mes adieux à ces populations dans mon répertoire. Je regrette beaucoup de ne pouvoir pas rester, dit Gaston, cherchant à répondre quelque chose pour cacher son trouble. Et moi donc, cher monsieur, vous êtes un fin connaisseur. Je n'oublierai jamais que c'est vous qui, le premier, avez reconnu le talent de mon élève, ma chère Zite, devançant la trompette de la renommée. Si vous la voyez un de ces jours, donnez-lui de nos nouvelles, je vous en prie. Dites-lui que nous allons tous bien, sa mère, moi et toute la famille. Et maintenant, à Paris, cher monsieur, à bientôt. » Il lui tendit les deux mains avec un geste d'un homme qui sait que tout Rozoy a les yeux sur lui. Gaston reprit le train pour Paris, abasourdi. Quel besoin de le tromper! N'avait-il pas mérité qu'elle fût franche avec lui? Qui était son amant? Avec qui courait-elle les champs à cette heure? Il avait cherché, allant de l'un à l'autre, mais sans qu'aucun indice pût le guider, puisqu'il ne savait rien, ou presque rien, de sa vie. Ce n'était pas Faré, qui était parti pour le midi avec sa femme et ses enfants. Quelque comédien, peut-être. Ce Joseph, sans doute, qu'il aimait. Ce n'était pas la première fois qu'il était trompé, mais jamais il n'avait éprouvé pareille douleur, cet anéantissement, ce désespoir morne, comme si quelque chose venait de mourir en lui. Ah, comme il l'aimait! Il ne la verrait plus, c'était fini, bien fini. Ce fut le mot qu'il se répéta jusqu'à Paris. Mais, en se trouvant à 9h30 sur le trottoir de la gare de Strasbourg, il changea d'idée et, avec cette mobilité qui nous fait tourner comme des girouettes quand notre cœur et notre tête sont en désaccord, il se dit que c'était lâcheté de ne point aller rue de Vaugirard. Si elle était rentrée, il se vengerait en lui donnant des nouvelles de sa mère. Mais elle n'était point rentrée. « Sans doute, sa mère est au plus mal, » dit Madame Crozat, persistant dans sa fable. « Alors, elle n'aura pas pu la quitter. C'est bien naturel, n'est-il pas vrai ?» Il n'avait qu'une chose raisonnable à faire, s'aller coucher, c'est pourquoi il se mit à se promener sur le trottoir, faisant face à l'hôtel des Médicis. Il saurait à quelle heure elle était rentrée et pourrait l'en accabler. Déjà, la rue était déserte, les dernières maisons ouvertes se fermaient, les lumières s'éteignaient et les voitures, comme les passants, se faisaient de plus en plus rares. Personne ne le gênait dans sa faction. Il pouvait marcher les yeux sur la porte de l'hôtel maintenant close et sur les fenêtres sombres de Zite. À la sortie des théâtres, la rue s'anima, il y eut des bruits de pas, des roulements de voitures qui le rendirent plus attentif, mais peu à peu, le silence s'établit de nouveau et il retomba dans sa méditation sans que rien le troublât. Maintenant, il ne se demandait plus pourquoi elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Une autre idée avait surgi dans sa tête et l'emplissait. Ce n'était plus du passé qu'il s'occupait, ce n'était même pas du présent, c'était de l'avenir. Qu'eût-il fait sans cette misérable tromperie? Il lui semblait bien qu'il n'aurait pas pu résister à la folie de l'épouser. Comment aurait-il pu se défendre contre cet amour qui, chaque jour, l'avait pris plus profondément? Qu'aurait-il eu à lui opposer? Rien, puisque le duc, si hostile à ce mariage, avait lui-même reconnu qu'il serait resté désarmé. Et par une évocation bizarre, au moins en ce moment, tout ce que le duc lui avait dit lui était revenu. Oui, certes, il aurait épousé et l'amour aurait tout emporté. Ce fut le froid et le frisson qui lui rappelèrent que la nuit s'écoulait. Depuis qu'on l'avait fermée, la porte de l'hôtel ne s'était pas rouverte. Aucune voiture ne s'était arrêtée devant elle. Évidemment, cette gueuse ne rentrerait pas plus cette nuit-là qu'elle n'était rentrée la nuit précédente. Il était vraiment trop bête de l'attendre tandis qu'elle dormait, heureuse, dans les bras de son amant. Déjà, les sergents de service dans cette partie de la rue l'avaient regardée curieusement et s'étaient même arrêtés comme pour l'interroger. En entendant revenir leur pas cadencé, il quitta la place et descendit la rue Férou, puis par la rue Bonaparte, à travers la ville déserte et silencieuse, il gagna à pied les hauteurs du parc Monceau, marchant vite sans parvenir à se réchauffer, tant était profond le frisson qui le secouait de la tête aux pieds. Le matin, il examina ce qu'il devait faire, l'abandonner avec mépris ou la revoir pour lui jeter son mensonge au visage et, après avoir bien balancé, il s'arrêta à ce dernier parti. Vraisemblablement, elle reviendrait pour la représentation du soir, car si elle avait pu se moquer de son directeur, elle ne se moquerait pas du public. Vers 6 heures, il avait donc chance de la rencontrer chez elle. Il était parti de chez lui pour être à 6 heures juste à l'hôtel des Médicis, où il avait trouvé Crozat seul dans son bureau. « Pas encore rentré, dit Crozat. Je vous avoue que je commence à être inquiet. Qu'a-t-il pu arriver ?» À ce moment, on entendit dans le vestibule un pas léger et rapide. Gaston se retourna, c'était Zide, suivi de la Chapelle, mais celui-ci restait en arrière pour qu'on ne sût pas s'il était avec elle. « Pouvez-vous m'accorder un moment ?» demanda Gaston, qui avait pâli et dont la voix frémissait malgré les efforts qu'il faisait pour se contenir. « Mais volontiers, si vous voulez prendre la peine de monter !» Crozat était pétrifié. Que dire ? Que faire ? Si sa femme avait été là, elle aurait trouvé moyen de prévenir Zide de l'histoire de la maladie de Madame du Châtelier. Mais lui n'avait pas cette ingéniosité alerte. Sur le seuil de son bureau, il regardait Zide et Gaston monter l'escalier en se grattant le front. Zide, ayant ouvert sa porte, fit entrer Gaston qui la regardait exaspéré de son air tranquille. Il allait rabattre cette assurance insolente. « Je vous apporte de bonnes nouvelles de la santé de votre mère, » dit-il, incapable d'attendre et de l'interroger, comme il avait tout d'abord voulu pour faire éclater son mensonge par un coup de scène. « Ah, vraiment ? » répondit-elle en souriant. « Elle va bien ? » ?»« Très bien. Vous avez donc été à Rozoy ? » ?»« Et vous, vous n'y avez donc pas été ? » ?»« Mais non. Alors, d'où venez-vous » s'écria-t-il, incapable de se contenir. Elle le regarda, surprise de cette violence que son absence ne suffisait pas à justifier, lui semblait-il. Pour le calmer, elle essaya de sourire. « J'ai fait un petit voyage. Où ? Cela, je ne peux pas le dire. Vous avez donc juré de me rendre fou ? Qu'avez-vous ? Vous le demandez ? Pourquoi cette fureur ? Pourquoi ces regards qui me poignardent ? C'est à moi de vous questionner, non à vous. » Elle ne se révolta pas. « Que voulez-vous que je vous dise ? D'abord, que vous m'expliquiez ce que signifie cette maladie de votre mère. » « Maman malade, vous venez de me dire qu'elle allait bien. Quand avez-vous été à Rozoy ? J'en suis arrivée hier soir. » « Alors ? Alors, pourquoi Madame Crozat m'a-t-elle dit hier que vous étiez partie auprès de votre mère malade ? « Je ne sais pas ce que Madame Crozat a pu vous dire, puisque je ne l'ai chargée de rien. Sans doute il y a eu confusion, que sais-je. » « Dites accord. Mais s'il y avait eu accord, je ne dirais pas le contraire d'elle. » « Il le faut bien, puisque pour vous confondre, j'ai été à Rozoy. Vous ne pouvez pas me soutenir que vous étiez hier près de vos parents, puisque j'y étais moi-même. » « Je ne veux rien vous soutenir. Je n'ai pas essayé de dire que j'avais été à Rozoy. »« Alors, où avez-vous été ? » Elle se troubla, car elle commençait à comprendre la gravité de la situation. « Vous voyez bien, s'écria-t-il, vous vous troublez, vous avez peur. Parce que je ne peux pas vous faire la réponse que vous demandez. Cette maladie, je n'en ai pas parlé. Oui ou non, voulez-vous me dire où vous avez été ? Je ne le peux pas, mais je vous jure que si les apparences sont contre moi, ce voyage est d'une innocence parfaite. Vous jurez, et je dois vous croire, n'est-ce pas ? Comme j'ai dû vous croire quand vous m'avez dit que vous m'aimiez. Qui vous obligeait à me dire que vous m'aimiez ? Mon amour. Vous parlez de votre amour. Combien de temps a-t-il duré ? Vous ne parlerez pas de cet amour maintenant, n'est-ce pas ? Elle ne répondit pas. Au moins, il vous reste cette pudeur de ne pas mentir à l'évidence. J'ignore si ce que je vais vous dire vous touchera, car je ne sais plus ce que vous êtes, et même, je n'ai jamais su ce que vous étiez. Mais je le dirai tout de même. Le moment que vous avez choisi pour me tromper est celui où j'allais vous demander de devenir ma femme. Votre femme ? Voyez si je vous aimais. Elle était éperdue, le regardant comme si elle ne comprenait pas. « Moi, votre femme ? » répétait-elle. « Et pendant ce temps, vous faisiez la fête. » Elle ne répondit pas. « Vous quittiez le théâtre au galop en faisant raconter que vous alliez voir votre mère malade. » Elle voulut se défendre. « Je n'étais pas seule. »« Je le pense bien. » »« La chapelle était avec moi. » « Qu'importe la chapelle, il a son histoire aussi à raconter, comme Madame Crozat. Je comprends vos soupçons et ne veux pas me fâcher de vos paroles, si injustes et si cruelles qu'elles soient. Ce que Madame Crozat a dit, je ne sais dans quelle intention, justifie tout. Mais enfin, si je vous explique pourquoi j'ai entrepris ce voyage, si je vous le raconte en détail, si je vous dis où j'ai été, en ne vous taisant qu'un point, un nom que j'ai juré de taire... Encore une histoire arrangée, n'est-ce pas ? Et si, de mon côté, sans que je l'aie vu, sans que je me sois entendu avec lui, la chapelle, qui est là, et que nous n'avons qu'à appeler pour qu'il vienne vous faire ce récit exactement dans les mêmes termes, en ne taisant lui aussi que le nom que nous ne pouvons pas dire, cela ne prouvera-t-il pas que les choses ne sont pas du tout ce que vous imaginez ? Nous sommes partis ensemble, nous ne nous sommes pas quittés, nous sommes revenus ensemble. Tout ce que je vous dirai, il peut vous le répéter mot pour mot, même pour ce qui est insignifiant. S'il fait cela, n'aurez-vous pas la preuve que nous n'aurons pas combiné notre récit ? Il marcha assez longtemps dans le salon, la regardant jusqu'au fond de l'âme, puis, tout à coup, détournant les yeux comme s'il craignait de se laisser toucher, « Je vous écoute, » dit-il enfin. Alors elle commença son récit en le prenant à la répétition du Cid, le continuant par leur départ, leur voyage dans le Brec, leur arrivée à Saint-Firmin, dont elle fit la description détaillée, leur visite à la personne qu'elle ne devait pas nommer, leur déjeuner, leur travail avec toutes les indications de Mademoiselle Rousseau, leur nuit passée à l'auberge, leur nouveau travail le lendemain, enfin leur retour. « Maintenant, dit-elle en terminant, je vais faire monter la chapelle et sans que je l'interrompe, sans que je le regarde, il va vous recommencer ce récit. » Gaston était ébranlé. Il n'avait pas du tout prévu qu'il en pouvait être ainsi, mais il n'était pas en état, cependant, de refuser le témoignage de la chapelle. Celui-ci, qu'un domestique avait été chercher, venait d'entrer. « Racontez notre voyage, monsieur Chamontin, dit Zite, mais sans nommer la personne chez qui nous avons été. Donnez tous les détails qui vous ont frappé, ne craignez pas d'être long. » La chapelle ne savait que penser. « Je vous en prie, dit-elle, et elle alla se coller le visage contre la fenêtre en regardant dans la rue. Sans comprendre et par pure obéissance, la chapelle fit ce qu'elle demandait. Naturellement, son récit fut le même que celui de Zite, ne différant que par quelques détails omis par lui ou ajoutés. Comme il ne précisait pas le déjeuner, elle l'interrompit. « Donnez donc le menu du déjeuner !» Des œufs à la coque, du beurre, des pommes de terre au lait, des pommes de rainette grises. À mesure qu'il parlait, Gaston était frappé de la concordance des deux récits, et si Zite avait pu le voir, elle aurait remarqué que les yeux qu'il tournait vers elle de temps en temps n'étaient plus du tout les mêmes. Quand la chapelle fut arrivée au bout, elle le pria de les laisser seuls, puis, venant à Gaston, « Encore une épreuve, dit-elle, car il ne faut pas qu'il puisse rester la plus légère obscurité dans votre esprit, le germe d'un doute dans votre cœur. » Il voulut parler, elle l'arrêta. « Un voyage n'est rien pour vous. Partez ce soir pour Conches par le train de 12h30. À Conches, prenez le courrier de Saint-Firmin-du-Bosc, faites causer le conducteur. À Saint-Firmin, descendez à l'auberge de la Grosse Tête et interrogez les gens. » « Tout ce que je vous demande, c'est d'éviter de vous faire nommer la personne chez qui nous avons été. Vous serez de retour demain à cette même heure. Je vous attendrai. Aujourd'hui, je suis brisé de fatigue, bouleversé par l'émotion, et il faut que je joue ce soir. Laissez-moi me remettre. Demain, nous reprendrons cet entretien au point même où nous l'interrompons aujourd'hui. » Il hésita un moment, attachant sur elle des yeux troublés où se peignait confusément l'état de son esprit et de son cœur. « Je vous en prie, dit-elle, ne me donnerez-vous pas la main ? Oh, de tout mon cœur !» Ce soir-là, Gaston trouva que le restaurant Foyot était le meilleur de Paris, tant il avait bel appétit pour son dîner. Le soir, il reprit sa place dans son fauteuil d'orchestre jusqu'à la fin du troisième acte d'Ella. Puis, après être rentré chez lui pour endosser des vêtements chauds, il partit à 12h30 par le train de Cherbourg. À 5h, il était à Conches et monté dans le break qui, le lundi, avait conduit Zit et La Chapelle, mais au lieu de s'installer dans l'intérieur, il s'asseyait sur le siège avec le cocher qu'il faisait causer. Une jeune dame avec un vieux monsieur, lundi, « Ah oui, bien sûr que je les ai portés, même qu'ils ont logé à la Grosse Tête. » À la Grosse Tête où il déjeuna, on lui parla aussi de la jeune dame et du vieux monsieur. Elle avait bien du chagrin, la jeune dame. Du chagrin ? À cause de son père qu'elle a perdu. La nuit, elle criait « Mon père est mort !» Depuis longtemps, Gaston n'avait pas ri d'aussi bon cœur, ce qui stupéfiait la servante qui lui racontait cette histoire. Pourquoi ce qui faisait pleurer la jeune dame faisait-il rire si fort ce monsieur ? C'est bien naturel de pleurer ses parents. À 6h, Gaston arrivait à l'hôtel des Médicis et, rayonnant, tendait les deux mains à Zit. Pourrez-vous me pardonner mes soupçons et mes paroles? Et vous, me pardonnerez-vous de vous avoir fait souffrir? Nous aurons toute notre vie pour cela.